Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Notre invité du jour est un Mayennais. Enfin, pas tout à fait, car il vit depuis une bonne quarantaine d'années dans ce département. Parce qu'en réalité, il est né dans la Sarthe. Et s'il est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est lancé dans le roman policier en 2021 avec la fille de San Gimignano. Et il récidive en 2022 avec le mystère de l'œil sans corps. Eh bien, bonjour Jean-Yves Moisy.
Bonjour.
C'est, on dit Moisy ou Moissy ?
Moisy.
Moisy, voilà. Bon, ça, c'est important parce qu'à la radio, c'est pas évident. Avec un Y pour les auditeurs. Alors, on va commencer par les présentations, si vous le voulez bien.
Oui.
Où est-ce que vous êtes né exactement dans la Sarthe ?
Alors, j'ai fait un petit parcours dans la Sarthe. Je suis né à Montfort-le-Génois. Maintenant. Voilà,
ah oui, c'était Gênes-le-Gandelin et Montfort-le-Rotrou.
Non, c'était Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gênes.
Eh ben, j'avais tout faux, c'était dans l'autre sens.
Et puis, nous sommes partis avec la famille à Courien, vous voyez, une petite ville près de Mamers. Et mes parents ont fini leur vie à Savigny-l'Évêque, donc tout près du Mans. Donc, un grand voyage.
Ça, un vrai Sartois, pur jus.
Un Maignot, on va dire.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans la Mayenne ? C'est le boulot, j'imagine ?
C'est le travail. Suivi des études d'histoire-géographie et plus particulièrement de géographie à l'université du Maine, ici au Mans. Et j'ai été recruté en 1976 par un géographe qui était bien connu dans la Sarthe, non pas parce qu'il était géographe, mais parce que c'était un homme politique apprécié, c'était Joël Le Teul.
Ah, vous avez travaillé avec Joël Le Teul.
J'ai travaillé avec Joël Le Teul en tant que directeur de l'association pour l'aménagement des rivières de l'Hervé et de la Vègre. Dans les années 70, c'était des rivières qui n'étaient plus entretenues et qui posaient d'énormes problèmes, et en particulier provoquaient des inondations dans un certain nombre de communes, dont Sablé-sur-Sarthe. Et il a été décidé de lancer une politique d'aménagement rural. Et j'ai eu des bureaux à la direction de l'agriculture au Mans, et puis des bureaux également à la direction de l'agriculture en Mayenne, puisque voilà, la Vègre coule dans la Sarthe et l'Herve dans la Mayenne. Et tout naturellement, un jour, l'opportunité d'une installation en Mayenne s'est faite.
Voilà, donc maintenant votre cœur bat un peu des deux côtés. Vous êtes un Maignot.
Je suis un Maignot. Et c'est
un, finalement, Mayenne-Sarthe. Voilà, vous êtes un vrai Maignot.
Beaucoup d'amis et de la famille dans la Sarthe.
D'accord. Eh bien, écoutez, on va commencer par là tout de suite. On va entrer dans le vif du sujet. Le mystère de l'œil sans corps. Alors, ça commence évidemment par quoi ? Bah, par un œil, évidemment. Alors, un jour, c'est un chien qui ramène un œil et des bouts de papier à ses maîtres, pour le moins déconcerté, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le papier est déchiqueté, ce qui fait qu'il est pratiquement impossible de deviner ce qu'il a pu contenir. Il y a quelques bribes de mots, mais c'est tout. Donc c'est le commandant Thomas Kellec qui se penche sur cet œil, si j'ose dire. Il est votre héros du précédent roman.
Oui, c'est cela, on le retrouve.
Est-ce qu'il sera dans un troisième ?
Pour l'instant, le troisième est à l'état d'embryon dans mes neurones. Interviendra-t-il ? Je ne sais pas encore.
Pour l'instant, la marmite est à feu doux.
Ah oui,
et ça chauffe.
D'accord.
Alors, ce commissaire, il est accompagné du lieutenant Clémence Bardou. Laquelle utilise des méthodes bien à elle, je trouve, hein, pour obtenir des infos. Elle a deux techniques que vous compléterez, hein, si j'en oublie. C'est la substitution d'identité, elle est assez forte pour ça, et surtout l'art de gagner la confiance des gens. Alors du coup, elle ramasse des infos assez intéressantes. Hein. C'est un personnage qui n'est pas secondaire.
Non, il est important. Comme dans le premier d'ailleurs, où j'avais aussi un personnage féminin, elles apportent une touche différente avec ce sixième sens féminin. Elle est aujourd'hui complètement en contraste avec l'image qu'on pouvait avoir du flic traditionnel, qui était peut-être un peu violent et qui allait un peu cash. Elle a une psychologie du contournement qui est assez intéressante.
Oui, elle est plus humaine, quelque part.
Oui, plus humaine, je crois que c'est important. Et puis, elle a eu comme référence son oncle, qui était commissaire divisionnaire et qui a travaillé avec Thomas Kellec. Et là, elle a dû apprendre quelques subtilités du métier.
Ouais, c'est ça. Et puis alors, tout ce beau monde, sur fond de conflit avec la patronne du commandant Kellec, mais ça on n'en dira pas plus, les lecteurs verront ça au fur et à mesure dans le livre, d'ailleurs ça arrange pas plus que ça. Hein.
Non, pas du tout.
Ce beau monde nous amène dans un nombre assez impressionnant d'endroits. Déjà, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est ça. Alors, on est à Londres. On va savoir bientôt pourquoi, où un commerçant passe un sale quart d'heure. On le retrouve aussi dans la Mayenne,
dans
la Mayenne, à Sainte-Suzanne, essentiellement. On le retrouve également, alors toute la côte, ce qu'on appelle la côte sauvage, La Baule, Le Pouliguen, Guérande et Pornichet vont jouer un rôle aussi, la région parisienne, et tout ça est relié, tous ces lieux sont reliés avec, ben, finalement, on va découvrir que la drogue est quasiment au centre de l'affaire. Mais même, alors c'est ça qui m'a frappé, c'est que même le sel de Guérande joue un rôle là-dedans.
Oui, oui, oui.
Là aussi, on ne va pas en dire plus sur lecteur.
Il y a toujours des références. J'aime bien mettre comme ça des références locales. Oui.
Alors, par contre, vous parlez d'un... Alors moi j'ai pas mal vécu dans ce coin-là, donc je connais pas mal. Mais je ne savais pas le lieu de stockage, les salorges.
Oui, 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 ce sont ces bâtiments en bois assez traditionnels que l'on voit en particulier dans les marais de Guérande.
Oui,
Guérande.
Maintenant je vois très bien, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça.
Et oui, voilà, j'aime bien faire...
un petit peu de culture.
Un petit peu de culture.
Hein, voilà, on se cultive un petit peu en lisant votre livre aussi. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et puis surtout, ces gens se connaissent bien. Tous les personnages qu'on voit comme ça un peu partout en France, à Londres, ils ont bourlingué ensemble dans des sociétés privées de mercenaires et se sont reconvertis dans la drogue. Voilà, c'est les mêmes qu'on retrouve dans la... Alors, on a un antiquaire, on a un restaurateur. Alors, l'antiquaire, on va découvrir plus tard que...
Oui, il n'est pas qu'antiquaire.
Il est aussi dans la drogue, mais il est aussi dans les tableaux volés.
Un peu faussaire, oui.
Voilà. On a un restaurateur, on a des marins, on a un éleveur de chiens. Ça fait un sacré défilé de métiers, ça. Et j'ai d'ailleurs l'impression, quand on vous lit, que vous êtes... très, très documenté.
Oui, je crois que c'est ce que je souhaite. C'est aussi ce qui m'a amené à écrire roman policier. J'allais pas écrire de roman autobiographique, ma vie n'aurait intéressé personne. Et le policier nécessite une rigueur. Et c'est mon esprit un peu cartésien. Et j'essaye de faire un livre qui soit plausible. On peut effectivement délirer, inventer. Là, il y a de la création, il y a de l'imagination, mais j'essaye de coller au plus près au terrain sans qu'on tombe dans une visite touristique. Je crois que ça,
oui,
c'est important.
Mais en même temps, si quelqu'un allait sur place, il pourrait vérifier la véracité de ce que vous écrivez.
Ah, complètement. À Londres, par exemple. Pourquoi Londres? D'abord, c'est parce que j'ai mes deux filles qui vivent à Londres et je vais souvent à Londres.
Voilà le secret.
En particulier dans ce quartier d'Hackney, et un quartier qui est à proximité du site des Jeux Olympiques, qui est un quartier qui est en pleine rénovation, malheureusement un peu trop gentrification, et qui perd ce côté un peu bohème, mais on a là des bars associatifs, des scènes ouvertes, vraiment c'est un lieu qui bouge beaucoup. La presqu'île guérandaise, parce que j'y vais effectivement très souvent, et puis Sainte-Suzanne, que je trouve un lieu remarquable, magnifique.
C'est merveilleux, simplement.
Et voilà, toute l'information qu'il y a sur Sainte-Suzanne est à 99% réelle. Il y a un ou deux noms qui changent.
Ah bah sinon, ça ne s'appellerait peut-être pas un roman. Hein.
Ça ne serait peut-être pas un roman. Et en tout cas, quand des gens sont cités, c'est avec leur accord. Mais j'aime bien faire ce voyage. Le premier partait de Paris et on se retrouvait vers la Bretagne Nord, puisqu'on était entre Dinard et Rennes. Mais tout part de Paris, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelait anciennement le quai des Orfèvres, qui n'est plus le quai des Orfèvres,
eh non,
qui est rue du Bastion, et d'ailleurs qui est au 36 rue du Bastion, qui est un numéro qui n'existe pas, qui a été inventé pour, par référence.
Ah, le 36, ça reste le 36.
Ah oui, ça reste le 36, c'est assez particulier. Mais
ah oui, c'est une légende qu'on n'efface pas comme ça.
Complètement,
hein.
Donc ce commandant, ben voilà, il va un peu voyager, et c'est vrai que j'aime bien apporter de l'information, et puis dans ce roman, il y a des choses dont je ne savais pas qu'elles viendraient. Voilà, je parle en particulier du milieu des mercenaires. Bon, et quand on sait ce qui se passe en Ukraine,
voilà un exemple où là, c'est documenté, c'est une évidence, parce que vous citez même des sociétés de mercenaires qui existent dans le monde, très précises. Alors, notamment le célèbre groupe Wagner, qui en ce moment est connu par tout le monde pour ses exactions, notamment en Afrique. Mais il semblerait que même en Ukraine, il y ait des traces de ces gens-là, manifestement. Hein. Et ça, c'est... Voilà, moi j'ai appris, je connaissais l'existence de ces sociétés de mercenaires, mais voilà, j'en ai découvert grâce à vous. Donc, on apprend des choses comme ça, voilà.
Ouais. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est à la fois ce qui peut m'être reproché par des éditeurs. Pour le premier livre, ça a été un peu difficile puisque j'ai envoyé les manuscrits la veille du confinement. Donc on imagine bien que soit j'ai pas eu de réponse, ou les réponses étaient je suis désolé, les librairies sont fermées, les salons du livre sont annulés. Et puis quand le confinement a été levé, ils m'ont dit mais on a déjà engrangé des auteurs avant le confinement, on va pas en prendre d'autres.
Eh oui.
Donc pour le deuxième, j'ai décidé de l'envoyer à une seule maison d'édition qu'on m'avait recommandée. Et le patron de cette maison d'édition m'a appelé, ce qui est très rare. Il a lu le livre, il a aimé l'intrigue, il a aimé les personnages. Mais il m'a dit que vous êtes un petit peu didactique de temps en temps, il y a votre côté pédagogue.
Qui le perturbait,
voilà,
ça,
il dit,
ça
dans
se gênait un peu.
Policier, voilà, on essaye de ramasser un peu l'écriture. Par contre, moi quand je rencontre, et je rencontre beaucoup de mes lecteurs, c'est ce qu'ils aiment. Donc,
moi j'aime bien, hein, ouais. Voilà. Et puis c'est peut-être aussi la déformation professionnelle, quand on est dans le savoir, si j'ose dire. Moi je suis journaliste et on a envie de savoir. Donc peut-être qu'un lecteur lambda, lui, se dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte, j'en ai rien à foutre de son liste. De ces histoires de sel et tout ça. Enfin, mais moi, je trouve ça intéressant. Après, chacun de juger. Hein.
Oui,
après, il y a quand même l'histoire. C'est ça qui compte. Hein.
Voilà.
Il y a une intrigue qui est quand même... ça fait pas du yo-yo, c'est pas ça. Mais disons que ça fait des... Il y a une évolution qui est particulière et qui est très intéressante parce que... il y a une prise d'otage qui va révéler
Des
choses qu'on n'attendait pas trop pendant tout le bouquin.
Mais c'est comme dans le premier. Alors le premier était beaucoup plus en quête avec des fausses pistes, des rebondissements, des indices. Le deuxième est dans un registre un peu différent, mais
oui, il y a une logique quand même dans l'enquête. Hein.
Et ce qui est important pour moi, c'est que tout ce qui est entre guillemets affaires sordides, crimes, etc. Si ce n'est pas excusable, c'est justifiable et on le comprend à la fin, quoi.
À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Par exemple, quand on disait documenter, c'est aussi vous avez contacté la police pour voir comment ils travaillent, etc. Vous êtes allé les voir. Parce qu'il y a quand même des choses qui ne trompent pas sur la façon de s'y prendre.
Alors il y a sans doute des erreurs de procédure. Je ne sais pas.
Je sais pas.
J'ai rencontré, et je serai encore au mois d'août au festival 22 Vlal Polar à Pornic. auquel participe, qui a été mis en place par l'ancien patron du Quai des Orfèvres, et auquel participent des anciens juges d'instruction, l'ancien patron de la police technique et scientifique. Et je leur ai dit, moi, j'ai jamais été arrêté et j'ai jamais été flic. Et d'ailleurs, certains me demandent dans quel commissariat j'ai travaillé. C'est la recherche, il y a sans doute des erreurs, mais bon, on est dans un roman.
Ah, ça sent le réel, hein. Franchement, enfin, on retrouve bien des façons de faire.
C'est l'accumulation.
Pour demander à des policiers, ouais, ce qu'ils en pensent.
C'est l'accumulation de connaissances à travers des lectures, à travers des séries, à travers l'observation qui a pu...
Observer, voilà, très important.
Important, oui.
Ouais. Ne pas se contenter de regarder, observer en même temps. Voilà, deux verbes qui sont complémentaires. Alors, on ne va pas tout révéler, hein, sinon que ça fourraille quand même sec à un moment donné. Mais je pense qu'on... Est-ce que vous pensez qu'on a mis un peu l'eau à la bouche des auditeurs ou est-ce que... Parce que le problème, il est toujours là dans des romans, surtout des romans policiers. Si on y dit trop, les gens, pourquoi ils iraient lire le livre? Alors donc, moi, j'ose pas trop aller trop loin. À moins que vous acceptiez, vous vous disiez, si je peux encore dire ça ou ça.
Non, je crois qu'il faut rester assez énigmatique, comme l'énigme. Une anecdote que j'aime rappeler, c'est que pourquoi et comment m'est venue l'idée? Je me promenais un jour avec mon épouse dans la forêt juste à côté de chez nous et je vois par terre un œil qui devait être un œil d'un corbeau
d'un
qui avait été dévoré et il ne restait qu'un œil. Et je me suis baissé, j'ai dit à mon épouse, voilà, j'ai une idée.
Imaginons que ce soit un œil humain.
Et donc j'ai eu cette idée au départ et j'ai écrit la fin du roman. et qui a été revu un peu, bien sûr,
vous aviez la fin.
J'avais la fin.
Vous avez commencé par la fin.
J'ai commencé par la fin, quoi.
Ah, c'est intéressant.
Et alors, on me demande souvent, on me dit, mais quand vous écrivez, est-ce que vous respectez ce qu'indiquaient des gens comme Stephen King? Vous vous levez à 4 heures du matin, vous vous enfermez dans un bureau avec un litre de café ou un litre de whisky, et puis vous écrivez. Alors, Stephen King dit, il faut écrire tous les jours, quel que soit le jour.
Victor Hugo disait ça, pas un jour sans une ligne.
Voilà, complètement. Moi, je suis complètement différent. Je ne veux pas être, entre guillemets, sans valeur, sans jugement de valeur, je ne veux pas être un fonctionnaire de l'écriture. Donc j'écris à n'importe quel moment. Alors on dit écrit, on tape sur sa tablette. Il peut avoir du bruit dans la maison. C'est pas grave.
C'est l'inspiration qui est là.
Complètement.
Et boum, on y va.
Et puis on sait que la nuit, on peut avoir la très belle phrase, on se réveille, elle n'est plus là.
On
met une journée à la retrouver, on ne la retrouvera jamais.
Il faudra un système d'enregistreur des cerveaux.
Voilà.
Je sais pas, il y a un petit génie qui va peut-être nous inventer ça un jour.
Ah oui, parce qu'on me dit, mais il faut avoir un petit carnet. Mais même si je me réveille, elle n'est plus là. Elle n'est plus là.
Non, il n'y a rien à faire, c'est
terrible. Et donc, on triture après.
Il y en a qui essaient d'apprendre à écrire sur un papier dans le noir.
Dans le noir.
Parce que parfois, la mémoire reste un peu. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé quelqu'un qui m'a dit le problème, c'est qu'une fois sur deux, je n'arrive pas à me relire le matin parce que j'écris tout de travers.
Alors déjà, même en pleine lumière, j'ai du mal à me relire. Donc voilà, souvent ça part comme ça. Pour le premier livre... qui était un essai, puisque je me suis mis à écrire le premier livre sans savoir où j'allais aller, pas du tout.
Ah, c'est ça la différence, là.
Voilà, là, c'est que j'avais quelque chose de non pas structuré. Je n'écris pas et je ne dresse pas avant un grand synopsis avec chapitre 1, chapitre 2, ça vient au fur et à mesure. L'avantage aujourd'hui, c'est que travaillant en informatique, on peut prendre un chapitre, le déplacer.
Voilà. Et puis la technique du dialogue aussi facilite un peu parfois les choses. Vous l'utilisez beaucoup.
Oui.
Ça peut peut-être aider un peu.
Alors c'est une de mes forces, me dit un ami journaliste.
Parce que ça peut aussi se transformer, par exemple, pour un scénario de cinéma, ça aide, hein.
Et oui, j'ai laissé...
Avoir déjà un peu travaillé les dialogues.
J'ai laissé, quand je l'ai rencontré à Pornic l'année dernière, j'ai laissé mon livre à un garçon qui est adorable, qui est Olivier Marchal. Et peut-être qu'un jour...
Thank you.
allez, je vais quand même révéler un petit truc, c'est qu'il y a un enregistrement qui va apprendre beaucoup de choses à tout le monde à un moment donné. Allez, dernier indice que je donne.
Dernier indice, ce n'est pas un enregistrement de radio, c'est un enregistrement voilà, qui permettra de connaître le pourquoi. Parce que à
c'est
un
surtout
moment,
le pourquoi. Voilà.
Le pourquoi des choses, c'est ça
le pourquoi des choses.
Quoi.
Pourquoi on en est arrivé là,
ouais.
À retrouver un œil dans un jardin. Est-ce que vous pourriez résumer en une minute votre précédent livre quand même, pour que les gens sachent un peu ce que vous avez fait?
Oui, alors le précédent livre, c'est ce commandant Thomas Kelleck qui est à un moment contraint de suivre un inconnu, et on va lui demander d'aller voler des documents dans la villa à Dinard d'un député ancien ministre, qu'il connaît parce que Thomas Kelleck a été officier de sécurité de ce ministre. Et quelques jours après, on va retrouver un cadavre dans la propriété.
Ah, crime, c'est gênant.
Crime passionnel, affaires politiques, vengeance. Et donc, l'enquête, effectivement, va partir sur ce point-là. Et comme pour le premier, on découvrira une vérité qui cache souvent des drames familiaux.
Oui, c'est de la vengeance, mais avec des nuances sentimentales, enfin, comment dire, psychologiques.
Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai travaillé dans ce milieu. J'ai fait une grande partie de ma carrière auprès de politiques, mais dans des métiers d'aménagement du territoire, dans différents métiers. Et certains voudront y voir et peut-être faire le lien avec des personnages ayant existé. Alors là, je crois que...
Non, ne cherchez pas.
Ne cherchez pas.
Il n'existe pas.
On dit souvent que la réalité dépasse la fiction, donc chacun après jugera. Mais c'est un univers que je connais. Alors, ce n'est pas un livre politique, mais il y a un univers. On est quelquefois à l'Assemblée nationale ou dans des différentes manifestations.
Oh, ça doit bien plaire aussi, ça.
Ça plaît aussi, je
crois. Ouais, je pense. Hein, le côté un peu obscur du monde politique, ça plaît toujours, ça.
Ça plaît toujours. Aussi.
Et le prochain, alors, c'est une promenade dans les bois qui vous a inspiré. Inspiré le prochain?
Non,
ou
non, le prochain, je ne sais pas comment il est venu.
Vous savez pas là, cette fois-ci.
Pas du tout, il est arrivé comme ça. Et alors, est-ce que j'irai jusqu'au bout? Je ne sais pas du tout.
Ah, c'est pas sûr.
C'est pas
ah
sûr.
Ouais, après tout, c'est ça aussi l'écriture.
C'est ça aussi, d'ailleurs.
Parce que c'est vrai que souvent, je pense que les gens, ils se demandent comment on est inspiré pour écrire une histoire. Mais finalement, c'est pas forcément creusé... à la pelleteuse pendant des mois et des mois, ça peut venir comme ça, spontanément.
Oui, c'est une révélation, une idée, une découverte, une vision. Sachant que le premier, ce que je dis, je suis allé au bout de la démarche, parce qu'à un moment, j'ai trouvé intéressant d'aller au bout. Moi, je dis souvent aux gens, si vous avez envie d'écrire, écrivez.
Ouais, voilà.
Même 20 pages, 15 pages, c'est pas grave.
Laissez-vous aller.
Et puis après, je crois que je l'ai fait pour... J'ai été, après ma vie professionnelle, j'ai fait un mandat d'élu dans une commune et j'ai été chargé de la communication. J'étais chargé de la rédaction du magazine, du journal. Et donc, j'étais dans une démarche de création. Et quand j'ai arrêté, j'avais effectivement souhaité ne faire qu'un mandat, je me suis dit, mais je vais devenir passif, je ne vais plus être dans cet esprit de création. Et puis, un deuxième phénomène, c'est que je fais du sport, je fais du tennis, j'ai de l'arthrose dans les genoux et je ne veux pas en avoir dans les neurones. Donc, ça m'oblige à revoir le français, la grammaire, à construire.
Ça, voilà, oui, ça c'est intéressant aussi.
C'est très, très, très intéressant. Ouais. Et puis, je crois, quand on écrit après, je l'ai auto-édité. Donc, je ne suis pas sur des volumes importants. On le fait pour soi, on le fait pour ses enfants, on le fait pour la famille. Et on se dit qu'on est voilà, content, on laisse quelque chose.
Ouais, voilà. Bien, bah écoutez, je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Je rappelle le titre du livre de Jean-Yves Moisy, « Le mystère de l'œil sans corps » est à 15 euros,
oui.
En auto-édition, vous l'avez dit. Donc vous pouvez le commander directement auprès de l'auteur, j'ai vu ça dans votre bouquin, sur son adresse mail jy.moisy@gmail.com. Je répète, jy.moisy@gmail.com. Je vous souhaite donc de bonnes vacances. Au revoir à tous.
Merci.